Oui, merci. Bah, écoutez, je remercie Madame Sabine Coste et l'IFE de m'accueillir. Alors, le NEPS a une terminologie bien connue de notre histoire parce que c'est une école, mais en fait, ce n'est pas une école, elle n'a pas de statut d'école. Alors, pourquoi école ? Parce que je rattache toujours l'histoire de la France avec la Troisième République, Napoléon et l'université. Et on a une dichotomie en France, c'est qu'on a nos écoles d'ingénieurs et on a l'université. Alors, dans l'inconscient collectif, c'est vrai que l'école peut interpeller les familles, à la différence de l'université. Pourtant, je suis un universitaire et je défends cette structure, non pas corps et âme, mais elle présente quelques avantages et parfois des inconvénients. Donc, école nationale, parce qu'elle a un recrutement national. Enseignement professionnel supérieur, c'est parce que l'objectif, c'est de recruter des bacs professionnels. Alors, pourquoi cette école au sein de l'université Joseph Fourier, un petit peu d'histoire, mais très récente, c'est un projet politique qui se base sur l'opération Campus de 2008, hein, Grenoble Université Innovation. Et les universitaires à Grenoble se sont aperçus qu'en fait, il y avait en 2008 5 bacs pro dans le parcours de l'université Joseph Fourier. Donc ils se sont dit, on peut peut-être faire quelque chose par rapport à l'université et par rapport au monde professionnel, notamment au bac professionnel. Donc, il y a deux idées nouvelles, mais moi j'en rajoute une autre, c'est accès au plus grand nombre, donc effectivement faire en sorte que des bacheliers professionnels intègrent l'université et le parcours de l'ENEPS, que je détaillerai, parce que de droit, ils peuvent aller à l'université, mais ils échouent. Jérémy en a déjà parlé. Ils échouent très bien, d'ailleurs, malheureusement très bien. Et également, égalité des chances. L'égalité des chances, si vous faites une recherche, c'est un concept néolibéral. Hein. Donc, faire attention. Et également, je dirais, industrie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'industrie pleure parfois ses techniciens, puisqu'il y a des velléités à tout craint de poursuivre des études. Mais le monde professionnel a besoin d'hommes et de femmes à tous les niveaux. Alors, il y a, dans cette histoire d'école qui a commencé en septembre 2009, il y avait un aval en 2008, avec des gens qui ont travaillé, comme Daniel Bloch, qui doit être âgé de 73 ans aujourd'hui, qui a été recteur de l'université de Grenoble, président de l'université de Grenoble, bref. Il a beaucoup travaillé sur les bacs pro, Jean Terme du CEA. Donc, c'est des gens qui ont accédé à la réussite grâce à la République. Donc, en fait, ils se sont dit, bah oui, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des bacs pro à l'université. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un projet politique, social et industriel. Après coup, en 2012, dans la politique Sarkozy, qui a lancé les IDEX, les LABEX, les EQUITEX, hein, laboratoire d'excellence, équipement d'excellence, initiative d'excellence, en octobre 2011, ça devait être Laurent Wauquiez, c'était plus Madame Pécresse, ils ont dit on va lancer initiative d'excellence en formation innovante. L'enveloppe, 183 millions d'euros, sur un appel à projet entre octobre et décembre 2011. 96 projets ont été déposés, 36 ont gagné, le gros lot, via un jury international. Alors là aussi, je dois préciser que l'Agence nationale de la recherche, qui pilote toutes ces affaires d'IDEX, etc., a mis en place un jury international. Des Canadiens, etc. Ça aurait été un jury franco-français, je pense que le NEPS n'existerait jamais. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, à l'origine, M. Sarkozy et son équipe a lancé Saisie Défi. sans doute que l'université française est difficile à réformer et les IDFI sont des perturbateurs parce que ils veulent être une vitrine, ils ont un label et ils doivent développer des thématiques innovantes en pédagogie. Donc, en fait, c'est notre défi qu'on a à relever à travers le public ou d'autres projets, puisque je rappelle qu'il y en a quand même 36 sur un budget de 183 millions d'euros, ce qui est énorme. Donc, nous, on a eu donc une somme d'argent, 3,5 millions, sur 8 ans, ce qui nous donne une certaine autonomie. Alors, je passe à la diapo suivante. Donc, j'ai fait la petite historique 2009. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, unique en France, oui, parce que de toute façon, c'est nouveau que de vouloir intégrer les bacs pro à l'université et les faire réussir. Donc, dans l'idée, les universitaires, l'équipe présidentielle s'est dit, si on les fait rentrer à l'université dans L1, on ne sait pas faire. Et on n'a pas les moyens de faire réussir, pour l'instant, les bacs pro dans le cadre de L1. Par contre, l'IUT, l'Institut Universitaire Technologie de Grenoble, a un savoir-faire, puisqu'il est né en 66, comme tous les IUT de France. Et l'IUT de Grenoble, via la région Rhône-Alpes, a accueilli pendant 25 ans un DUT modulaire, par module, sur 3 ans, qui était sur 8 disciplines. Et la première année était financée par la région Rhône-Alpes. Et en fait, les universitaires qui étaient et qui sont pour partie encore à l'IUT1, je rappelle, à l'IUT1, il y a 200 enseignants-chercheurs et enseignants, ont travaillé sur des adaptations pédagogiques par rapport à ce public. Donc, ils se sont dit, si on fait venir des bacs pro, il va bien falloir qu'ils fassent différents. S'ils ne font pas différent, ça ne va pas bien se passer. Donc, il y avait un peu un vivier de dire, on va demander à l'IUT et au directeur de l'IUT à l'époque d'ouvrir une session. La première session qui a été ouverte, c'est la filière génie civil construction durable, parce que l'équipe pédagogique, à ce moment-là, moi, je m'occupais de ce département, je suis un républicain, et j'ai dit au directeur, à l'université, il est difficile d'imposer les choses. C'est la culture. C'est comme ça. C'est dommage, mais c'est une réalité. Donc, moi, je fais un vote démocratique et je vais donc faire voter l'équipe génie civil. L'équipe génie civil s'est portée favorable sur ce projet. Donc, on a démarré en 2009 avec 13 élèves. Ensuite, les choses ont progressé parce qu'effectivement, il y a des filières à l'IUT, notamment des filières du secondaire, qui ont du mal à recruter. La belle époque des années 66 et l'idée de M. Fouché était géniale, le MEDEF a applaudi des deux bras, mais tout ça, ça a changé. Il y a 50 ans, le paysage politique, socioculturel, tout ça a totalement bouleversé. Donc aujourd'hui aussi, des filières comme génie électrique, des filières comme réseau et télécommunications, des filières comme génie mécanique ont du mal à recruter dans le vivier BAC-S et dans le vivier BAC-STI, parfois, parce que le vivier BAC-STI ne vient pas forcément dans les IUT, parce qu'ils disent que l'IUT, c'est trop difficile. Et là, les IUT, si je fais un petit parallèle, ils ont un challenge, c'est-à-dire s'adapter au public STI2D. J'espère que tous ces gens-là vont travailler sur ce projet. Donc, le bac pro est un potentiel de vivier. Donc, faire venir en petit nombre, sur le plan qualitatif. Ils appelaient ça excellence. Quand je dis excellence vis-à-vis des jeunes, ça les fait partir. Donc, je dis métier. Ben oui, parce qu'on parle souvent de diplôme, parce que malheureusement ou heureusement, peu importe, en France, si on n'a pas de diplôme, ça ne se passe pas forcément très bien dans l'insertion professionnelle. Donc, il nous faut un diplôme. Donc, c'est un métier, un diplôme pour réussir. Donc, ça, c'est le leitmotiv. Après, génie électrique et informatique, 2010. GMP est né en 2013. En 2012, donc, il y a eu le label. Je pense que sans le label, je ne serais pas là. Je ferais de la recherche ou autre chose, mais je ne m'occuperais pas de ces écoles. le label a permis d'asseoir le projet. Et puis Réseau et Télécom, il était question d'ouvrir Génie Thermique Énergie, mais pour l'instant l'équipe de génie thermique de Grenoble ne souhaite pas pour l'instant ouvrir une session. L'idée, c'est un parcours sur trois niveaux. DUT, insertion professionnelle. Licence pro, insertion professionnelle. Master, insertion professionnelle. Donc, le schéma, vous le connaissez, à la différence qu'en amont, c'est les bacs S, les bacs STU2D. Aujourd'hui, j'ai mis bac pro, parce qu'effectivement, c'est le public qui nous intéresse par la voie professionnelle. Donc, les jeunes, via, ça c'est un paramètre très important, puisque je vous rappelle que l'IUT, c'est un statut dérogatoire de l'université, le fameux article L713.9, qui fait que il y a un numerus clausus. Sans cela, eh bien, à l'université, effectivement, il y a des bacs pro qui y vont, mais on ne peut pas, enfin, l'université ne peut pas sélectionner les bacs pro. Donc, cette école a un caractère élitiste. Alors, j'ai dit égalité des chances. Je suis paradoxal. Oui, mais aujourd'hui, il y a 147 jeunes dans ce parcours. En 2009, il y en avait 13. Et en 2008, il y en avait 5. Enfin, l'école n'existait pas. Donc, on est passé de 5 à 150. Donc, c'est une forme d'égalité des chances. Mais on peut mieux faire. Dans le label IDEFI, l'idée, c'est d'essaimer. C'est-à-dire, le français que je respecte n'est pas un migrant. D'ailleurs, ça pose des problèmes sur l'emploi. Donc, on a des régions, et effectivement, l'idée, ça serait de développer ce concept, ce modèle, ce label, à travers certaines universités, comme Rhône-Alpes, comme qui est déjà l'Est, l'Ouest, le Centre. Donc ça, c'est le projet, c'est le défi que l'on a. Donc les jeunes, après un DUT, eh bien, s'insèrent professionnellement. Sur les quatre filières, deux développent des filières en alternance en deuxième année, réseau, télécom et génie mécanique et productique. Ça, c'est à signaler. Il y a un aspect socio-culturel, je n'ai pas heureusement étudié cette question, mais il s'avère quand même que les bacs pro sont plutôt dans le faire que dans le dire. Hein, ils aiment bien faire les choses et ils aiment assez rapidement gagner de l'argent. La culture génie mécanique, eh bien, à travers nos partenaires comme EDF, Caterpillar, etc., viennent à l'IUT et les jeunes bac pro qui ont fait une première année, qui ont réussi, qui sont en phase de passer en deuxième année, sont devant les RH, les ressources humaines. Et aujourd'hui, les bac pro en génie mécanique et en RT raflent tous les postes. Tous les postes. Donc ça, c'est une surprise générale, une très bonne surprise. Et notamment les bacs S et STI, vous vous doutez, qui font la grimace. Ces bacs pro, ils commencent à nous embêter parce qu'ils ravent tous les contrats. Il n'y en a pas 50 des contrats, mais il y en a une quinzaine. Que ce soit chez Orange, Caterpillar, son partenaire, etc. Donc ça, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que je parlais industrie. Et les RH, ils ont compris qu'un bac pro qui avait d'excellence, hein, c'est des jeunes qui ont entre 13 et 18 de moyenne en sortie de bac, hein, d'accord ? Donc c'est une certaine élite qui a relevé le défi de rentrer au DUT, de le réussir, eh bien, et qui veut s'insérer professionnellement et qui ne veut pas devenir ingénieur. J'ai rien contre les ingénieurs, bien entendu. Mais ils ne veulent pas poursuivre, ils veulent s'insérer professionnellement. Donc là, c'est une réussite et elle est à conforter. Alors, on parlait de prépa, ça reste marginal, hein. La prépa ATS, l'année dernière, il y en a deux sur quatre, sur combien ils étaient, une cinquantaine à sortir, 60. Il y en a deux qui ont fait le prépa ATS. Je ne sais pas où ils s'en sont rendus. ATS, c'est une préparation. Alors, c'est un acronyme, comme malheureusement, nous utilisons beaucoup trop les acronymes. C'est une préparation technicien supérieur. En fait, c'est une préparation d'un an. Adaptation ? Ouais, adaptation technicien supérieur. En fait, c'est pour préparer les jeunes en un an après un DUT. C'est réversé. Je crois que c'est réservé au DUT et au BTS. Le lycée Argouges à Grenoble fait. Et ils ont un programme musclé, hein, de sciences, de l'ingénieur, je présume, de mathématiques et de physique. Et ensuite, il prépare des concours. Et dans les concours de Napoléon, il y a des places réservées pour ces catégories. Voilà. Ça reste marginal. Le gros va en licence pro. Alors, le bilan rentrée 2014, c'est juste des indicateurs, je vais aller passer rapidement. Aujourd'hui, donc, dans le fer de lance, c'est le DUT, Diplôme Universitaire Technologie. Voyez qu'en génie civil, on est à 38 jeunes, on va dire qu'on est à peu près sur la course de croisière, puisqu'on recrute à 20, 25, il y en a 20 qui passent en deuxième année. Donc, globalement, on va dire qu'on est sur 40 jeunes pour chaque filière. Génie électrique, on peut monter en puissance. RT, on a un peu plus de difficultés parce qu'ils recrutent sur un seul bac. Et GMP, pour l'instant, est que sur un demi-groupe, donc recrute à 12. Bon emballant, l'idée, c'est d'avoir à peu près, je dirais, 150 jeunes dans le vivier DUT de Grenoble. 4 fois 4, on va dire, à peu près. Mais après, on voit qu'il y a des gens qui sont en licence pro cette année, il y en a une dizaine, qui vont dans le parcours master, il y en a 11. À Polytech, puisque Polytech, c'est le réseau Eiffel des universités françaises, il y en a 3. Et puis après, il y en a qui se baladent, il y en a un qui est parti à l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, il y en a un qui a intégré l'INSA, mais là, tout ça, ça reste marginal, l'INSA à Toulouse en alternance, l'École d'architecture de Grenoble, parce qu'il voulait être architecte, il a réussi le concours, il n'avait pas de place réservée, en ATS, et puis il y en a un qui est parti se balader au Canada, je ne sais pas trop ce qu'il fait d'ailleurs. Donc, on va dire qu'il y en a 150 aujourd'hui qui sont inscrits dans le parcours. Alors, les candidatures APB, puisque le DAET de l'époque, M. Garcia, a dit, bah oui, la procédure, c'est APB. Bon, on s'aperçoit aujourd'hui que globalement, ben, heureusement, on monte en puissance, puisque au chiffre de ce matin, il reste encore 24 heures. On était au chiffre de 303. On envisage le 330. Ça veut dire une augmentation de 20%. Quand vous avez une augmentation de 20% à l'IUT du potentiel de jeunes, c'est juste un peu extraordinaire. Je le précise. Après, il y a un autre point, c'est les chiffres en parenthèse. C'est le nombre de vœux. C'est-à-dire qu'effectivement, les bacs pro en poursuite d'études ont un choix limité, ce qui est normal, puisque leur vocation, c'est de s'insérer professionnellement. Le petit A, c'est l'insertion professionnelle pour les bacs pro. C'est pas la poursuite d'études. On est d'accord. 42%, alors il y en a 123 ce matin qui veulent entrer en génie civil, mais il y en a 52 qui sont en vœux 1. Donc ils veulent vraiment venir à l'ENEPS. Et on a 22 places. 22 places, pourquoi ? Parce que, pour l'instant, les équipes pédagogiques ne peuvent pas répondre, d'où les SEMAG, entre autres. Ça, c'est un autre environnement. Génie électrique, on est à 44%. RT, à la fois, il n'y a qu'un seul bac, c'est 30%. Génie électrique, je reviens un peu en arrière, on est sur deux bacs, l'ELEC et le SEN. Et GCCD, on est à peu près sur 4-5 bacs, assistant architecte, assistant géomètre, etc. Économie de la construction, gros œuvres, TP. Et GMP, qui a démarré en 2013, a rattrapé RT et se porte très très bien, parce que vous voyez que là, ils ont 14 places et il y en a 24 qui veulent venir à tout prix. Donc, on peut donc faire, entre guillemets, son marché. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est un côté d'excellence. Bon. Ça, c'est le concept de départ. Hein. Alors, on est pour, on est contre, on peut en débattre, mais c'est vraiment le concept. Et il y a des clients qui ont l'air d'être intéressés sur l'affaire. Alors, pourquoi ? Eh bien, en fait, juste en deux mots, le recrutement, c'est un recrutement quart sud-est. Vous voyez, grand quart sud-est, 57 étudiants, 84% des équipes, l'Isère, Savoie, Alpes, Drôme, etc. Et puis, marginalement, on a un peu de l'ouest et de sud-ouest, parce que moi, j'ai été faire campagne en Bretagne, mais dirons-nous qu'on a beaucoup de mal de convaincre la famille ou les familles et les sujets, c'est-à-dire les jeunes, et puis le coût, et j'expliquerai pourquoi. Donc, on reste sur un grand quart sud-est de la France, ce qui fait qu'on pourrait envisager 4 ou 5 écoles de ce type dans le paysage français universitaire. On pourrait, c'est un conditionnel. Hein. Alors, stabilisation des effectifs, et on s'aperçoit effectivement, comme il y a une pression, ce qu'on appelle la pression, hein, c'est le rapport entre les demandes et le nombre de places, ce qui se passe dans certaines filières de certains IUT. Mais aujourd'hui, dans l'IUT Génie Civil Grenoble, il y a une petite sélection. Génie électrique, c'est terminé, il n'y a plus de sélection. Réseau et télécom, c'est terminé, il n'y a plus de sélection. GMP, un peu plus, ça redémarre. Mesure physique, c'est une propédeutique, hein, c'est une bac plus 2, 90% de poursuite d'études, donc là, il y a de la pression. Chimie, il y a un peu de pression, mais pas tant que ça. Et MMI, la fameuse multimédia informatique, là, ils exposent les chiffres, donc là, il y a beaucoup de choses. Donc, vous voyez que sur 8 filières, sur 25, je ne connais pas l'histoire des 25, il y a quand même, comme un damier noir et blanc, hein. Il y en a qui ont la banane et l'autre, ils ne savent pas trop quoi faire, hein, d'accord ? Donc, ça, c'est une réalité de terrain. Alors, aujourd'hui, dans les effectifs de l'ENEPS, compte tenu que la pression augmente, eh bien, les réorientations diminuent. Les réorientations, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'entre le 1er septembre et le 30 juin, il y a des jeunes qui restent sur le bateau ou qui s'en vont. Voilà. Donc, on a eu une inédite à la rentrée 2014, il y en a 4 qui ne se sont pas présentés. C'était du jamais vu. Et puis, aujourd'hui, on est à 8 réorientations sur 72, ce qui est relativement faible. Alors, nous, on incite les jeunes à rester sur le bateau pour, en fait, statistiquement, quand ils restent, eh bien, ils apprennent, ils ont un vécu professionnel, universitaire, et ils se réorientent à 100% sur des STS pour avoir un BTS. Alors, les chiffres, il faut faire attention parce que ça reste quand même des petits chiffres. Hein. C'est pas, on n'est pas sur 1000 ou 2000 étudiants. Bon, aujourd'hui, on a 117 jeunes qui sont en DUT. Sur les chiffres qu'on regarde par rapport aux 10 étudiants et aux 20 étudiants, on s'aperçoit que, en fait, certains jeunes, et ça dépend des filières, n'en restent pas là. En fait, ils ont l'appétit, c'est-à-dire qu'ils ont découvert qu'au départ, la salade avec un peu de sauce tomate ou autre, enfin, ils n'aimaient pas bien la salade, quoi. Mais il s'avère que la salade, ils l'aiment bien. Hein, ils aiment bien les sciences. Il y en a qui ont des révélations en sciences. Ça paraît incroyable. Donc, en fait, ce qui se passe, quand on parle d'évaluation, quand on parle réussite, il y a tout un contexte. Hein. Il y a un contexte psy, hein, parce qu'effectivement, le jeune est considéré, et on lui dit, aujourd'hui, tu as la possibilité de réussir. Ce discours-là, il ne l'avait pas eu, sans doute il l'a eu dans les lycées, mais il ne l'a pas forcément eu dans le cadre universitaire. Donc, il y en a, ils se prennent au jeu, ils réussissent. Alors, ça se passe plus dans les filières génie civil, dans les filières génie électrique. Par contre, dans la filière génie mécanique et réseau et télécom, ils ont plus envie de s'insérer professionnellement. Alors, il y en a qui se prennent au jeu. Attention, il y a quand même 20%, 20 plus 60, ça fait quand même, on est à peu près à en bac plus 3, 5, on est sur 20, 25% des effectifs. C'est aussi, c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire à tout craint des poursuites d'études. Hein, mais qu'il y ait des bons techniciens à leur place et qui n'ont pas qu'une envie qu'une fois qu'ils ont intégré une entreprise d'ingénierie, dans le thermique, etc., et n'ont qu'une envie, c'est de partir pour être ingénieur, parce que c'est ce qui se passe souvent pour les DUT. Non, ils sont bien assis sur leur siège. Ils ont 20 rétrécis sur leur siège. Ça, c'est une réalité professionnelle très forte qui m'a été dite. Donc ça, c'est un plus à donner pour les jeunes. Bon, donc 13, 147, la progression. Alors, deux, trois mots, parce que ce n'est pas l'objet de notre débat. L'université, malheureusement, n'a pas toujours mis l'étudiant au centre. Mettre l'étudiant au centre, c'est un vrai débat aussi. Mais les universités, aujourd'hui, se tirent la bourre sur la recherche. Donc, les programmes, les étudiants, bah, c'est vrai qu'il en faut des étudiants, mais tout le monde n'a pas le discours étudiant, parcours, etc. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'université, des familles qui n'aiment pas l'université. Nous, à partir du moment où on a intégré le jeune, l'objectif numéro un, puisqu'on a une sélection, si on sélectionne un dossier, eh bien, on considère qu'on a une part de responsabilité dans la réussite du jeune, à l'instant T. L'objectif, c'est de le faire réussir. Maintenant, s'il n'a pas envie, on ne sait pas faire. Ensuite, s'il a des bons résultats et que, pour finir, il est passé du monde opératif, puisque le bac pro, c'est l'opératif. Ensuite, le DUT, c'est des métiers de, je dirais, de maîtrise, de conduite. Mais après, s'il veut passer sur un niveau supérieur, qu'on est dans le cadre de la conception, donc des métiers pour concevoir, que ce soit le bâtiment que l'on fréquente aujourd'hui, eh bien, il y a des archis, mais il y a des ingénieurs, et c'est les ingénieurs qui conçoivent la structure. Hein, que vous regardez LVMH, la Philharmonie à Paris, à Lyon, récemment, enfin, il a eu du mal à coucher, mais enfin, il y est arrivé, il a coûté très cher, mais c'est un... Bon, bref, je suis dans le milieu, je connais tout ça par cœur, donc, mais ce sont des ingénieurs, ce sont des masters, hein, c'est la conception, c'est réservé à un métier d'ingénieur master. Donc, il y a des jeunes qui s'y prêtent à ça, et ils ont envie d'être ingénieurs, mais dans le cadre d'un métier de conception. Parce que ça, ça leur est bien expliqué. Donc, il faut être attractif, pas faire du prosélytisme, mais je combats le prosélytisme, c'est être attractif. Attractif, ça veut dire que, eh bien, ils ont le DUT avec succès, donc ils vont aller en L3. Mais en L3, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut des référents. Il faut des enseignants référents dans le L3, le M1 et le M2 de l'Université Joseph Fourier. Ce sont des enseignants-chercheurs qui disent, oui, moi, je suis d'accord pour mettre du soutien pédagogique sur certains modules. Dédoubler certains modules, parce que là, ça va être compliqué pour eux. Faire du tutorat comme étudiants. Ils se sont inspirés de notre maquette. Faire des heures de révision, ce qu'on appelle l'étude. Donc, mettre un dispositif qui existe à Grenoble, mais s'ils veulent aller à Paul Sabatier à Toulouse, j'ai rien contre Paul Sabatier à Toulouse, mais le dispositif Paul Sabatier à Toulouse de l'ENEPS, il n'existe pas. D'accord ? Donc, c'est aussi être attractif. Alors, il y a aussi le côté social. Aujourd'hui, à l'IUT1 de Grenoble, 2500 étudiants, il y a 30 à 35% de jeunes qui sont boursiers. À l'ENEF, c'est 50% de boursiers. À la prépa lycée Paria à Montceau-les-Mines, qui est une prépa en 3 ans pour les bacs pro, il y a 65% de boursiers. Donc, on est dans une population, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, sur le milieu social où, qui est différent... Hein, des milieux sociaux qu'on peut rencontrer dans les grandes écoles, dans les écoles de commerce, etc., etc. Donc, le jeune, quand on lui dit qu'une mensuellement, il faut environ 400 € pour faire des études supérieures, il me dit, il y a juste un problème, c'est que moi, soit je ne suis pas boursier, soit mon père, c'est une canaille et il ne me donne rien, ma mère, elle est partie, donc je ne sais pas comment faire. Voilà. L'humour sauve, vous savez. Ah ben oui, mais nous, on peut... Les bourses de l'État existent, et vous le savez, et elles ont le mérite d'exister. Ah ben oui, mais moi, mon père, il craque et il ne me donne pas d'argent, donc je ne sais pas comment faire. J'ai connu ça, hein, je dis ça. J'ai une jeune fille qui a fait le NEPS, elle a eu plus de 3 000 € en financement grâce aux fondations, et elle a eu son DUT, elle travaille aujourd'hui chez GFC à Marseille. Donc, je connais ces situations. On est sur de l'élite, on est sur du qualitatif, on est sur du petit nombre, c'est clair. Mais bon, donc vous voyez que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Eh bien, on est sur un ratio, on va dire entre 600 dans les belles années, mais ça c'était au départ, 1 500 €. Ces fonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contrat moral, hein, entre le jeune, et on travaille avec le CROUS pour ça. Ils établissent un dossier, hein. L'argent vient de la Fondation Spi-Batignolles. La Fondation Spi-Batignolles, c'est 15 structures qui donnent 40 000 € par an. La Fondation Spi-Batignolles a à peu près 600 000 € par an. La Fondation Cartier doit avoir juste un peu plus. Mais la Fondation Cartier se dirige à un conseil d'administration. Toutes les fondations ont des conseils d'administration. Et dans le conseil d'administration, les gens qui font partie de ce conseil d'administration décident où ils vont mettre l'argent. Quand la Fondation Spi-Batignolles donne 3 000 € à un jeune qui est à l'ENEPS, sur le plan de la com, peut mieux faire. Par contre, effectivement, quand Orange, j'ai rien contre Orange, il est dans l'école, hein, finance les philharmonies, etc., fait de la culture au sens noble terme, c'est formidable. Mais il n'aide pas le peuple. Il aide un autre peuple. Même si le peuple peut aussi aller à la culture. Donc, c'est très difficile de trouver des fondations qui donnent de l'argent. Et ça, ça fait partie de la réussite. On parle évaluation, oui, mais on parle aussi argent. Parce que sans argent, vous le savez tous, on ne fait pas grand-chose. Donc, ici, la Fondation Spibatignol, c'est du 5 étoiles. Pourquoi ? Parce qu'ils donnent, après examen du dossier, de l'argent avec un chèque aux jeunes. C'est un contrat moral, on leur regarde dans les yeux et tout va bien se passer. Schneider Electric, c'est la même chose. Et le fonds IDEFI, sur lequel j'avais demandé de l'argent, il y a de l'argent réservé aux étudiants. Donc, bon an, mal an, d'ailleurs, on n'arrive pas, on a à peu près 45 000 euros par an pour ces jeunes. On ne dépense pas, on a un petit trésor de guerre. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de donner de l'argent. Parce qu'il y a le mérite. Alors, en septembre, il n'y a pas réellement de mérite. C'est par rapport à la situation sociale qui nous est aidée par le CROUS. Par contre, au mois de mars, il y a un deuxième versement. Et là, il y a le mérite et le directeur des études nous donne les affaires. Comme on a des partenaires, l'IUT peut recevoir de la taxe d'apprentissage. Bon, eh bien, l'IUT reçoit de la taxe d'apprentissage via l'école. Sur une moyenne de 5 ans, on est à 14 000 euros. Alors, les partenaires, effectivement, sont des gens qui se sont engagés dans le projet, notamment pour le soutenir financièrement, et puis aussi par rapport aux stages et aux aides, aux stages et aux offres d'emploi. Bon. Alors, il y a des communications, mais ça, je passe rapidement, ce n'était pas l'objet. Je viens sur les axes majeurs de l'école. Donc, les adaptations pédagogiques première et deuxième année, les actions sociales, j'en parlerai pas beaucoup parce que j'en ai déjà parlé, et les partenaires non plus, je vais me contenir sur l'axe 1 particulièrement. Alors, les adaptations pédagogiques, le problème, si je fais un parallèle entre l'école Merlin-Gérin, qui est devenue l'école Schneider Electric, qui forme des jeunes au bac, eux, ils prennent des jeunes en seconde, en première, en terminale, mais c'est l'équipe Merlin-Gérin qui gère ces programmes et qui fait passer les jeunes au bac. Ils dépensent 1 million d'euros. Hein. C'est juste une bagatelle. C'est l'école de M. Merlin-Gérin, qui est à l'origine du groupe Schneider Electric. Je rappelle, Schneider Electric, 140 000 emplois dans le monde. Bon, ils ont leur propre école. Ils ne versent pas de taxe d'apprentissage parce qu'ils versent la taxe pour l'école. Donc, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas polémique, ceci. C'est-à-dire qu'eux créent leur programme. Nous, à partir du moment où on intègre un bac pro sur un DUT, on n'a juste pas grand-chose au niveau de l'adaptation pédagogique. Parce que les programmes pédagogiques sont des programmes nationaux, c'est un diplôme national, et donc il y a une configuration particulière. Hein. Donc, le diaporama, je pourrais vous le faire circuler. Donc, dans certains PPN, programmes pédagogiques, ils sont rédigés en termes de compétences. Donc ça, c'est important. Alors, c'est important à double titre, parce que le menu... Alors, le menu, c'est quoi ? C'est 2 semestres sur une année. Le semestre est composé en unités d'enseignement. En général, il y en a 3. Et dans les unités d'enseignement, il y a des modules. En général, il y en a 5. Bon, ça, c'est la maquette. Et le NEPS s'inscrit dans cette maquette. Donc, la marge de manœuvre par rapport à l'évaluation, elle est réelle. Par contre, par rapport aux adaptations pédagogiques, compte tenu qu'ils ont environ 30 à 35 heures par semaine, il faut essayer de ne pas trop les essouffler. Donc, on a adapté un certain nombre de choses. Dans la maquette, je rappelle que les unités d'enseignement ne sont pas compensables, mais ils sont capitalisables au-dessus de 10. Donc, effectivement, lorsqu'un jeune a un UE Tartampion, hein, sciences et technologies, en semestre 1, l'UE 1, 2, eh bien, à vie, il a cet UE. Par contre, s'il n'a pas un UE supérieur à 8, il va se trouver en difficulté. Il va aller au deuxième semestre, et là, s'il réussit le deuxième semestre, c'est-à-dire qu'il a tous les UE supérieurs à 10, et que la moyenne du semestre 1 est égale à 10, voire supérieure, eh bien, le jury... Enfin, d'abord, il y a deux choses. Il y a la commission propre à l'équipe pédagogique, et après, il y a le jury. Alors, la commission, c'est l'équipe pédagogique du département avec les collègues qui enseignent à l'UNF ou pas. Et après, il y a le jury. Les jurys, c'est le directeur de l'IUT avec les responsables de département et les directeurs des études. Donc là, il peut dire, s'il a un module, mettons, à 5, c'est carton rouge. Donc là, c'est soit un redoublement, soit une exclusion. Par contre, s'il a un module à 7, 7,5, 8, là, il peut y avoir une admission par jury. Et là, à ce moment-là, il valide son semestre 1, il a validé son semestre 2, donc il va aller au semestre 3. Les semestres 1 et 2 sont compensables, mais pas les vieux. Donc ça, c'est apogée, c'est une maquette hein, dans tous les IUT. Ça, le NEP statut, il peut rien faire. Voilà. Donc, ça, c'est notre cadre. Alors, dans les modules, un module, ça va être 30 heures. Donc, à chaque module, il faut une note. Le module M1, c'est-à-dire mathématiques 1, il y en a 4, puisqu'il y a 4 fois 30 heures, il y a 120 heures, ben, il faut des devoirs. Donc, classiquement, dans les équipes pédagogiques, la note, on va dire qu'à 60%, elle doit être individualisée. C'est-à-dire que c'est un devoir surveillé. Mais il peut y avoir 2 devoirs surveillés, au lieu d'en avoir 1. Donc, en première année, les jeunes de l'ENEPS, ils sont à part. C'est un groupe à part. Donc, dans l'évaluation, ils sont à part. 80% de leur évaluation est à part. Des fois, ils passent 20% avec d'autres. C'est-à-dire, les initiaux, ils sont 130 à côté. Donc, ils sont 20-25. Donc, tous les contrôles sont réalisés par les enseignants, surveillés par les enseignants et corrigés donc par les enseignants qui enseignent dans le cadre de l'ENEPS. Donc là, il y a des adaptations par rapport aux tests. D'abord, sur les DS, ils peuvent anticiper avec un devoir maison qui va porter un peu sur les thématiques. Le devoir maison, ils le font à la maison ou ailleurs. Et c'est validé dans l'étude. Je reviendrai sur la thématique étude. Ensuite, ils peuvent, à travers un ou deux DS, parce que un ou deux DS, c'est pas beaucoup. Donc, en fait, c'est l'évaluation formative, en fait. Parce que souvent, dans nos formations, on a une évaluation qui est plutôt sanction. Voilà, il arrive, il y a des tests, etc. Bon. Nous, à l'ENEPS, on a essayé de développer l'évaluation formative. C'est-à-dire qu'il y a un test, oui, mais tu ne l'as pas réussi. Alors, pourquoi tu ne l'as pas réussi? Donc, je reviens sur ce modèle. 60%, ce sont des DS, devoir surveiller. Il peut y en avoir un ou deux. Au-delà, sur 30 heures, c'est juste très difficile. Et après, il y a une note de scolarité. Dans ces notes de scolarité, il peut y avoir donc des QCM, qui n'existent pas dans la formation initiale, ça. La note de scolarité, ça n'existe pas. C'est une note de TP ou c'est un test. Donc, en général, dans la formation classique, il y a un DS, deux tests ou un test et une note de TP. Il y a 4 notes. L'idée de l'ENEPS, c'est d'augmenter, hein, c'est 25% de plus. Alors, évidemment, le corps enseignant, s'il n'est pas motivé, bien, l'ENEPS, vous oubliez, hein, d'accord ? Il faut des gens qui aient la banane tous les matins hein, pour enseigner dans cette affaire, mais ils ont une reconnaissance très forte des jeunes. Parce que les jeunes, en général, quand ils viennent, ils savent pourquoi ils sont là, et c'est globalement une grande récompense pour eux et pour nous. Donc, les 40% de la note, il y a des tests de scolarité. Donc, QCM en début de séance, pour savoir si c'est validé, ou des APET, c'est un peu tendance, dans un cours, on fait des APET, certains ont développé les APET, c'est-à-dire qu'ils testent les jeunes par rapport à leurs connaissances, ou un QCM en ligne, à travers des outils comme Chamillo, ou Camillo, ça dépend si on prononce dans un sens ou un. Donc là, on développe petit à petit des choses pour l'évaluation qui font que la note ne vient plus une note sanction, mais devient une note encourageante. Ça se passe en parallèle avec l'étude. Par exemple, il a une mauvaise note, il a moins de 10 au test. Bon, très bien, il a moins de 10. Oui, mais pourquoi il a moins de 10? Donc, le moins de 10 au test de maths, ça se passe principalement en sciences. Hein, parce que les bacs pro contre 13 et 17, ils sont très bons en technique. Hein. Donc là, c'est figure une zénose. La technique, c'est bon, quoi. On va pas leur faire la messe 50 fois, ils savent faire. Là où ils ont des difficultés, c'est dans des sciences. Donc, principalement, l'étude se fait en sciences. Alors, l'étude, c'est 1 à 3 heures par semaine. Ah non, c'est pas le même. Voilà. Donc là, c'est à disposition, c'est 1 à 2, 3 heures par semaine sur un travail individuel. Alors, le travail se fait avec un tuteur étudiant qui est en liste, en général, il est en master. Un tutiant où on choisit pas l'étudiant au hasard. D'abord, il a un contrat d'étudiant payé et il cotise pour la retraite. Ça, c'est un contrat, il est payé 15,25 € net de l'heure. Et le collègue qui est directeur des études. Oui, pourquoi? Parce que le NEPS, c'est un groupe à part avec un directeur des études. Donc les 38 ou les 40 jeunes qui sont dans la filière génie civil ont un directeur des études. Les 130 plus les 110 sont en deuxième année, ça fait 240, ils ont un ou deux directeurs des études. Vous voyez le ratio? Donc là, ils sont, comme je dis, en garde rapprochée. Il y a un collègue qui est agrégé dans les quatre directeurs des études, il y a trois agrégés et un maître de conf. Il a envie de faire ça, c'est un défi qu'il a envie de le relever, il se met au travail, donc il organise les études, soit avec le directeur des études de la formation classique, ou il prend des initiatives quand il peut le faire. Alors, le travail individuel, donc il recrute notamment des étudiants. Donc, c'est lui qui les recrute. Il a un certain nombre, parce qu'à l'université Joseph-Fauré, il y a juste 16 000 étudiants. Donc, pour trouver des jeunes en master, c'est pas réellement un problème. Donc, on fait un peu un ressource, c'est eux qui managent, et on choisit 2-3 jeunes. Ce jeune-là, il a une feuille de route avec des exercices corrigés, ou des tests corrigés, ou des DS corrigés. Et en parallèle, il y a le prof de maths, il y a le prof d'hydraulique, il y a le prof d'électronique, il y a le prof de RDM qui suit les études. Soit il vient avec lui, soit le jeune, il va tout seul. Voilà. Donc c'est... alors je prends l'exemple, une note inférieure à 10, eh bien, pendant l'étude, il va refaire individuellement le travail, voire il va en faire un deuxième. Donc ça, c'est pour leur apprendre à travailler. Parce que souvent, les bacs pro, il y en a qui ont travaillé, mais il y en a, ils n'ont pas beaucoup travaillé, ils ont posé leur sac en arrivant chez eux ou ailleurs, à 17h30, ils l'ont repris le lendemain matin. Donc si, effectivement, dans le cadre de l'évaluation, ils n'ont pas conscience qu'il faut travailler, il faut avoir des méthodes de travail, eh bien, ça va être difficile pour eux. Donc l'étude, en fait, on a essayé tous les modèles. On a essayé l'étude facultative. L'étude où le jeune était parachuté. Tiens, allez, à 17h30, tu as un groupe de 12. Parce qu'en général, l'étude, on la divise par deux. Donc, il y a deux études. Quand tu as un groupe de 10, tu te débrouilles. Tu réponds aux questions. Tu te débrouilles. Ça ne marche pas non plus. Ce qui marche, c'est le binôme enseignant, étudiant motivé, qui est en master, qui a envie de faire passer, et il n'a pas mon discours, il n'a pas les cheveux blancs, donc en général, ça se passe très bien. Ça, c'est un vrai plus. Et en plus, quand il fait 2 heures, il gagne 30 balles dans sa soirée, donc pas négligeable. Mais je dirais que ce n'est pas forcément sa première motivation. Mais comme on dit, tout peine mérite travail, ou tout travail mérite salaire, pardon. Sans doute un lapsus. Alors, effectif réduit 20 à 24. Donc, là aussi, c'est l'enseignant et le directeur des études qui dit, oh là là, moi, 24, d'abord, il n'y a pas de cours magistraux. Quand il y a un module de 30 heures sur la maquette pédagogique, il peut y avoir des amphis pour, par exemple, 9 heures. Il y a 9 heures d'amphi. Il y a 10-12 heures de TD et puis 8 heures de TP. Bon, les 9 heures d'amphi, c'est des amphis à 24. Ça peut même être des amphis à 12. C'est-à-dire que le collègue qui, sur certaines approches pédagogiques de sciences, moi, je veux être interactif avec le jeune. Donc, je veux qu'il pose des questions. Donc, s'il pose des questions, vous doutez bien qu'à 12, c'est plus simple qu'à 24, et c'est beaucoup plus simple que d'un amphi de 130. Même, alors, là où les jeunes, maintenant, effectivement, dans le cadre du STIDD, les collègues ont développé la zapette. C'est des switches là qu'ils ont, les étudiants, pour répondre aux questions. Donc, en fait, ce qui se passe, le problème, c'est que l'étudiant n'est pas assez acteur. Je ne parle pas de l'histoire du passé, c'est-à-dire du lycée, du collège, etc. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que l'étudiant soit acteur. Et ça, c'est pas facile, parce qu'ils n'ont pas forcément appris à être acteur. Être acteur, c'est poser des questions. Donc, quand on est 12, on peut, a priori, plus poser de questions que quand on est 24. Bon, il y a une dynamique. Puis, il y a une dynamique de groupe, puisqu'ils sont tous entre bac pro. Ils se tirent pas la voie, ils se tirent pas forcément la bourre entre bac pro, bien que parfois oui. Mais parce qu'en fait, les autres, ils les oublient après. Là, les 130 qui sont à côté, ils les connaissent pas trop. Puis c'est pas réellement un problème. S'ils sont déjà fiers d'être là, donc ils s'occupent de leur ménage. Le ménage des autres, ça les intéresse pas trop. Donc il y a une collaboration importante entre les jeunes. Globalement. Alors après, il y a toujours le problème du groupe. Il y a des groupes qui tirent vers le haut, il y a des groupes qui tirent vers le bas. Dans le cadre de l'évaluation et du règlement des études, à l'IUT1 de Grenoble, on a un règlement des études excessivement sévère. Un jeune qui est absent trois fois sur un module, qui compte 30 heures, que ses absences ne sont pas justifiées, il a juste une chose, c'est de prendre la porte et de dire au revoir. Il ne sera jamais évalué. Jamais évalué. Donc il a perdu son année. Il a perdu tout. Il n'a plus aucune crédibilité. Donc ça, c'est redoutable. Donc ça, effectivement, ça vient aussi dans l'idée que si les jeunes réussissent, eh bien, ils doivent être présents. Et s'ils ne sont pas présents, eh bien, ils ne feront plus partie de l'effectif de l'ENEPS. Ensuite, les adaptations pédagogiques. C'est nouveau pour les universitaires. Ça se développe. Il y a un problème de statut des universitaires qui est malheureusement parfois empêché par les syndicats. J'ai rien contre les syndicats. Madame Bonafou de la DGCIP, Direction Générale de l'Enseignement Supérieur de l'Insertion Professionnelle, l'a un peu fait évoluer, mais c'est la notion de la reconnaissance. Un universitaire a une carrière qui est valorisée à travers la recherche. La pédagogie, eh bien, c'est pas réellement pris en considération. Donc ça, c'est une chose qui va changer, notamment dans le cadre de la LRU. Je ne suis pas un franc-tireur de la LRU, mais liberté, responsabilité, université, notamment dans les montages de, dans les ressources humaines, eh bien, il semblerait qu'il y ait certaines composantes universitaires qui vont prendre en compte les carrières dans le cadre des évolutions pédagogiques. Mais on en est aux prémices. En effet, là, sur un groupe de 24, les cours magistraux, on oublie. Les doublements, c'est possible. Les travaux dirigés, cours, c'est facile. Et les travaux pratiques, ça, c'est... Alors, les travaux pratiques, au niveau des notations, il peut y avoir plus de travaux pratiques. Un module peut commencer par un travail pratique. Parce que souvent, ce qui fait fuir les jeunes, c'est qu'il y a parfois un peu de théorie. Oui, mais attendez, vous allez faire un peu de théorie, mais vous allez faire des travaux pratiques. Oui, mais on peut faire un peu de travaux pratiques avant, un ou deux, pour les sensibiliser. Et pour les, c'est un peu la carotte. On va dire, bah oui, à ce moment-là, vous pourrez faire, après, vous verrez les cours. Donc ça, c'est chacun qui est un peu maître. Après, les apprentissages par problème, il y a certains modules qui ont été développés dans ce sens-là, mais ça reste timide et je pense qu'on peut mieux faire. Ensuite, il y a le référent. Quand on parle de réussite, il y a effectivement la notation, mais il y a aussi l'enseignant qui doit être référent. Donc, chaque élève a un tuteur référent ou a son directeur des études référent. Mais il a au moins quelqu'un à qui s'adresser. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a son mail, il peut écrire, il dit « voilà, j'ai tel problème ». Bon, si c'est des problèmes de santé, on le réoriente. Si c'est des problèmes de prof ou des problèmes de compréhension, on essaye de gérer avec le directeur des études ou avec le prof. Bref, si c'est des problèmes de stage, eh bien, on fait marcher le réseau. Donc, on envoie un CV, une lettre de motivation au réseau. L'objectif, c'est de présenter une cohérence dans son parcours et notamment à la fin du troisième semestre, de présenter son projet professionnel à travers donc ce qu'il veut faire dans l'avenir, une insertion professionnelle ou une poursuite d'études. Dans le cadre de la maquette pédagogique du PPN, il y a effectivement, ça a été remodelé en 2013, il y a beaucoup d'heures sur le projet professionnel personnel. Donc ces projets-là, ils sont faits soit, alors ça dépend des filières, là j'ai un peu de mal à faire bouger les lignes, mais pour le génie civil, c'est fait par une psychologue qui a l'habitude de travailler sur le projet professionnel personnel, qui travaille sur les connaissances de soi également. Après, dans d'autres filières, il y a des profs de com ou des professionnels, c'est-à-dire du coaching. Ça aussi, ça marche. Il y a beaucoup plus de coaching maintenant qu'avant. Dans certaines écoles, d'ailleurs, ils ont des mentors. La notion de mentor, dans le cadre d'un DUT, peut-être que c'est un peu prétentieux, mais je sais que ça existe pas mal dans les structures d'écoles de commerce. C'est un référent professionnel qui a eu un parcours professionnel, en général, de responsable, de leader dans le monde de l'industrie. Alors, voilà, bon, après, c'est les adaptations sociales. Donc, si je me pose des questions par rapport à l'évaluation, en fait. Pourquoi, en fait, on a été amené, dirons-nous, à faire différemment? Pourquoi plus de besoin de contrôle continu? Parce qu'effectivement, alors, la semestrialisation a fait qu'on a saucissonné nos affaires, puisque un semestre, c'est 1er septembre, 15, 20 janvier. Après, c'est terminé. Donc, en fait, la difficulté, et là, le NEPS ne peut pas s'adapter, peut pas réellement faire des choses. Il faudrait créer un autre diplôme, donc c'est juste un autre épisode. On a une maquette où on a un module de 30 heures. Donc dans ce module de 30 heures, déjà, je répète, ils ont beaucoup d'heures, on ne va pas faire du soutien. On n'est pas réellement favorable au soutien. Par contre, l'étude qui est fléchée sur la révision de tests ou de DS porte mieux ses fruits que rabâcher. Parce que le soutien, si on peut dire 10 fois la même chose, s'il n'a pas envie de faire, s'il n'a pas envie d'écouter, rien ne se passera. Par contre, vous faites un test, c'est lui qui a fait le test, pas moi. C'est lui qui a fait le test. Le test, il a réussi, il a la banane. Il n'a pas réussi, fait la grimace. On va le revoir. Il dit, mais alors, pourquoi vous n'avez pas réussi? Donc, on va retravailler le pourquoi de la pas réussite. Et on va passer 1 heure ce soir, puisque c'est obligatoire. Les études sont obligatoires, bien entendu. Donc là, il est bien obligé de se mettre face à l'écran, de se regarder dans le miroir et de se dire, bah ouais, effectivement, il va falloir que je retravaille. Et c'est moi qui vais travailler, c'est pas l'enseignant. Donc, d'où être acteur. Donc ça, c'est une vraie, dans l'évaluation, je pense que c'est une vraie considération, c'est de le forcer, c'est un terme qui n'est pas élégant, c'est pas séduisant, mais c'est de l'inviter, plutôt, c'est plus noble. C'est de l'inviter de façon obligatoire. Mais obligatoire, c'est la carotte. Parce qu'effectivement, il dit, ah ben si j'ai 10, ah, mon prochain test, je vais me cogner un 10, et peut-être j'aurai plus. Et comme ça, j'aurai pas d'études. Tiens, les copains, vous allez à l'étude, vous êtes. Eh oui. Donc, ça, c'est un moteur. Puisqu'on est dans un petit groupe, on peut faire. Sur 130, c'est juste plus difficile. D'accord? Mais sur 20-24, c'est jouable. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est le côté attractif. Donc, la dynamique de groupe. Parce que parfois, il y a des études qui se passent à 5. Il y a eu un test sur les 20, il y en a 15 qui ont plus de 10. Oui, mais les 5, ils vont à l'étude. Alors, vous allez me dire, oui, ben, il y a un étudiant, tuteur pour les 5. Ben oui, il y en a 5. Il y en a 2, ben, il y en a 2. Il y en a 10, ben, il y en a 10. Pas le problème. On ne parle pas d'argent. L'argent, c'est tabou. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de rendement. On parle efficacité de la connaissance et de l'apprentissage de la connaissance. C'est basé uniquement là-dessus. Voilà. Alors ça, ce n'est pas fait tout de suite. J'en parle un peu, puis c'est sans doute perfectible. Donc, besoin de contrôle continu assez rapidement. la besoin d'évaluation formative, parce que c'est formateur de dire, effectivement, il y a 3-4 tests, il y a une note de TP. Bon, la note de TP, c'est en groupe. Oui, mais vous mélangez les notes de TP et les notes individuelles. Oui, mais c'est une note de scolarité, pas grave. Parce que les notes de TP, des fois, il y en a qu'un qui travaille et les deux autres qui regardent la télé, quoi. Donc, si c'est pas fait dans les 4 heures, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a vraiment un besoin d'évaluation formative. Et puis, adapter peut-être de façon un peu plus individuelle les contenus. Parce que c'est vrai que là aussi, dans des tests, les collègues peuvent poser une ou deux questions en plus. Ou le module, il commence à la lettre A, il finit à la lettre Z. L'idée, comme les programmes, pas tous, sont rédigés en termes de compétences. Donc il y a 3 chiffres. 1, c'est ce que je fais, c'est de la... L'un, c'est de l'information. Voilà. Je fais de l'information. Donc le jeune, il regarde le module M1, il y a 4-5 items, et en face, il y a 1, 2, 3 avec des croix. Donc, par exemple, résolution d'une équation du second degré. Chiffre 3, il doit maîtriser. Par contre, équation aux dérivées partielles dans le M4, on peut dire que c'est du travail sous contrôle. Mais on n'est pas obligé de l'évaluer là-dessus. Donc l'enseignant, en fait, il a un dispositif qui fait qu'il regarde les différents items, bon, il les adapte, et après, sur le DS, c'est quoi? C'est la maîtrise. L'enseignant doit considérer que lorsqu'il pose une question, eh bien, le jeune... Compte tenu de la formation qu'il a eue, et de l'information et de la formation, il doit pouvoir restituer la connaissance et avoir une bonne note. Alors évidemment, il y a des variables d'ajustement sur des questions 5, parce que la question 5, elle est peut-être un peu plus difficile, donc c'est le problème de la courbe de Gauss. Hein. Soit la courbe de Gauss, on essaye de la centrer à 10, c'est quand même plus intelligent que de la centrer à 4. Mais enfin, il y a des ayatollahs de Gauss à 4, hein, dans le monde universitaire. J'ai rien contre le monde universitaire. Voilà. Mais, ah oui, ça veut rien, c'est ringard, le niveau a baissé, etc. Hier, j'étais avec 37 chefs de département sur 42, génie mécanique productique à Besançon. J'ai parlé de l'école. Il y en a deux qui m'ont pris le prospectus. Parce qu'il y en a, dans les équipes pédagogiques, les bacs pro, c'est juste interdit pour eux, l'université. Donc, là aussi, c'est un autre débat. Mais savoir que, effectivement, l'évaluation, elle doit être encourager le jeune. Parce que si elle a comme sanction, et c'est vrai pour tout le monde, ça. Alors après, effectivement, le problème, c'est que le DUT n'est pas un concours. Donc, en fait, la question qui est posée par rapport à l'évaluation, c'est le DUT à 10 sur 20, sur les 4 semestres, compensable ou pas, ou le DUT à 16, 17, 18. Je dirais que 15, 16, des DUT à 15, 16, il en existe. Pas mal. Le 15, 16, il a juste en envie, c'est de poursuivre dans des écoles d'ingénieurs, en master, etc. Mais le DUT à 10, certains ont quelques velléités de vouloir intégrer des écoles. Mais globalement, pour les bacs pro, eux, ils n'ont pas de velléité à décret. Ils sont déjà très content d'avoir réussi ce challenge, d'avoir son DUT à 10, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller travailler et gagner un peu de pognon. Donc ça, c'est une réalité aussi sociale, hein, qui existe beaucoup moins sur nos dérives de bac S. Hein. STI 2D, j'en parle moins parce que l'expérience fait qu'elle est récente, et les STI 2D, pour l'instant, ne réussissent pas bien dans les IUT. Enfin, ils réussissent entre 50, on va dire entre 30 et 80%, ça dépend des filières, donc il y a de la marge. Et les IUT ont un vrai défi à s'adapter pédagogiquement, comme les collègues de BTS qui doivent s'adapter. Voilà. On peut terminer.
Ben voilà.
Hein, de permettre les échanges et non pas le monologue. Non, oui, ben là, en fait, Mais ça, j'en ai déjà parlé. Bon, l'aspect social. Oui, il y a un point, l'aspect social que j'ai apporté, c'est que l'Université Joseph Fourier a signé un accord avec le CROUS, donc de Grenoble, qui gère 6000 chambres, 62 000 étudiants. D'accord ? Aujourd'hui, c'est ça. Donc, madame le directeur du CROUS. Alors, les directeurs du CROUS, ils changent souvent. Hein. Mais bon, peu importe. Hein. Donc, le directeur du CROUS, à l'époque, a signé une convention de partenariat entre l'Université Joseph Fourier et donc l'école, puisque c'est un parcours université. C'est quoi la convention ? Eh bien, à partir du moment où un jeune est pris à l'ENEPS, il a deux droits, une chambre, dans le parc du CROUS. Donc ça, c'est un vrai plus, parce que la problématique d'une chambre, la chambre de 9 mètres carrés coûte 150 euros moins les APL, et après on passe à 275 euros, puis après on passe à 350 euros quand il y a des studios, bref, il y a un certain nombre. Mais je dirais qu'à minima, hein, une chambre coûte 150 euros un jeune, s'il a l'APL ça fait 75 euros, il va dépenser entre 100 et 200 euros de nourriture par mois, et 300, donc ça fait une moyenne à 200, ça fait 275, ça fait 300. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Grenoble, pour faire des études supérieures, il faut 300 euros par mois. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, le binôme, hein, chambre réservée et aide financière, plus ou pas avec l'aide, la bourse de l'État, est un dispositif social que je mettrai en deux. Le 1, c'est la pédagogie et la réussite du jeune. Aujourd'hui, on est à 80% de réussite. Hein. Il y a 20% d'échecs et de rétention. Et je pense qu'on peut faire mieux. Quand on a des pressions énormes comme ça, on va. Et aujourd'hui, sur des STI à Grenoble, on est à 50% d'échecs. Mais les STI, on ne fait rien pour l'instant. Quelque chose de prévu ? Non, rien de prévu. Bon, donc moi je rigole, évidemment, je suis sur un parcours un peu d'excellence, donc c'est normal que je me bouge un peu les fesses, comme on dit. Hein. Donc, voilà. Mais ça veut dire que sur cette affaire-là, ça peut marcher. Ensuite, il y a le côté culturel. Bon, là, c'est pareil, la culture, c'est pour les autres, l'université, c'est pour les autres. C'est pas de la démagogie. Ah, monsieur, démagogie, ça veut dire quoi ? Ben, je vous explique ce que ça veut dire, démagogie. Donc, parce que dans les lycées, je peux vous dire que j'en fais des lycées. Hein. Donc, c'est vrai que l'aspect culturel, et ça ne marche pas très bien. QCP Pennon est passé au musée de Rome, on a eu 5 jeunes sur 80 potentiellement. Là, on va aller au théâtre, ah, on en a un peu plus. On l'a multiplié par 3. Bon, c'est pas obligatoire. Et c'est pour leur dire que la culture, c'est pas non plus pour les autres. Ça ne coûte pas grand-chose. Ensuite, il y a des actions culturelles. Pour l'instant, bon, ça, on innove un peu, c'est nouveau. Et puis, dernièrement, et je termine là-dessus, alors les partenaires, bon, ils versent de la taxe, c'est un contrat, ou ils n'en versent pas, mais ils en versent quand même. Caterpillar, dernièrement, est partenaire de GMP, eh bien, génie mécanique et productique. Il a doublé la mise. Hein. Habituellement, il donne 10 000 euros à l'IUT1, département GMP, et il va donner 10 000 euros pour le NEPS. Donc, les 10 000 euros sont mutualisés pour l'équipe GMP. Très bien. Ensuite, il y a des grandes vitrines, comme Vinci, etc. Donc là, la dernière qu'on a fait, on est allé à Paris. Bon, évidemment, on est allé à Paris avec un jeune. On n'était pas avec un jeune, on était avec 20 jeunes. 20 jeunes de le NEPS, on a passé la journée, ça a coûté 2 500 euros. Bon, on a payé sur le cadre de l'ENEPS. Les 20 jeunes sont levés tous à 5h du matin, tous rendez-vous à la gare TGV 6h, et on est rentré le soir, il était 23h30. Canopée Paris, hein, c'est la halle, 800 millions d'euros, ok. Ville de Paris, maître d'ouvrage. Ensuite, 4 parcours dans Paris, 1, 2, 3, 4, concours de selfie et concours de poster à la clé. Et ensuite, rendez-vous Trocadéro, la Tour Eiffel, clic-clac, merci Kodak, bonne soirée. Donc, ça, c'est génial. Parce que les jeunes, on les considère. Aller à Paris, c'est juste un rêve. Non, c'est pas un rêve. Ça va se passer demain matin à 6h. Voilà. Ensuite, Stade Grand Lyon, à Lyon. On est allé visiter le Stade Grand Lyon. Alors ça mobilise un peu moins d'énergie. Bon, le Stade Vélodrome Marseille, on est allé plusieurs fois, bref, etc. Et puis après, on a des partenaires comme le Syntec. Le Syntec nous a réservé 25 places au Salon Bâtira, 25 places à des conférences sur l'ingénierie. Qu'est-ce que l'ingénierie? Ben, on a 25 places réservées. Ils nous ont payé le bus aller-retour Grenoble-Lyon. Les jeunes. Et là, il y a toute une foire pour chercher des stages, etc. Donc, Tesser, chaîne de montage, etc. Salon Biénergie à Lyon également. Bref, on a des partenaires qui font que... Alors, ça, c'est pas facile parce que, je termine, on a notre programme pédagogique et le directeur des études doit prendre des initiatives. Ouais, mais le module, il fait 30 heures. Ouais, mais tu nous casses un peu les pieds, là. Ton module, il va faire 26 heures. Parce que là, pendant 4 heures, ils vont aller à Paris, ouais, etc. Puis tu nous laisses tranquilles, d'accord? Ça va bien se passer aussi, hein? C'est pas parce qu'ils seront gavés 4 heures de plus. Ils en ont 1800 en 2 ans, donc tout va... Parce que là aussi, on doit lutter contre ça. Voilà.